Nous allons faire le point sur le sujet récurrent de cette émission depuis que nous avons commencé, qui est la directive sur le droit d'auteur. Donc rappelez-vous, lors de l'émission du 3 juillet, nous vous annoncions qu'il y avait un vote très important au Parlement européen. Donc Étienne, est-ce que tu peux nous faire un point de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé le 5 juillet 2018 lors du vote au Parlement européen? Et qu'est-ce qui va arriver d'ici donc le 12 septembre 2018, quand un nouveau vote va avoir lieu?
Effectivement, tu le dis, le 5 juillet, il y a eu un vote très important et d'autant plus important qu'il nous a été favorable. Il nous a mis dans une dynamique plutôt positive, même très positive par rapport à ce vote. Alors peut-être revenir rapidement sur les enjeux de ce texte et pourquoi est-ce qu'on en parle finalement à chaque émission depuis le lancement de Libre à vous. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que c'est notre dossier chaud. Il faut savoir donc qu'il y a une révision en cours de la directive droit d'auteur. Alors pour rappel, nous, au cœur de notre critique, et la critique en général sur ce texte, c'est l'article 13. Parce que l'article 13, il entend imposer aux plateformes, alors décrites comme les services de partage de contenu mis en ligne par les utilisateurs et les utilisatrices, il entend leur imposer de passer des accords de licence avec les sociétés de gestion droit d'auteur. C'est déjà compliqué, on peut imaginer de passer des accords sur l'ensemble des contenus potentiellement soumis aux droits d'auteur. Et afin d'assurer, et c'est là où le bât blesse vraiment, c'est afin d'assurer finalement le respect de ces accords, ça imposerait donc aux plateformes de mettre en place des filtres automatisés pour vérifier que les contenus mis en ligne contreviennent ou non aux droits d'auteur. Et là, c'est ce qui nous inquiète tout particulièrement. Donc on avait effectivement, alors pour rappel également et pour sur les enjeux, lors de l'émission du 5 juin, du mardi 5 juin, donc on avait discuté du régime de responsabilité de ces intermédiaires techniques, des plateformes, vis-à-vis justement du contenu mis en ligne par les personnes qui utilisent ces services. Et c'est vraiment ça qui est remis en cause. Et tout l'enjeu, on avait parlé, c'était finalement là, on est dans un régime où les plateformes ne sont pas tenues de surveiller, même une interdiction de leur imposer de surveiller les contenus. Donc elles doivent seulement agir après coup. C'est-à-dire que si on leur dit qu'il y a un contenu potentiellement illicite, là, elles doivent agir. Et là, tout l'enjeu et l'objectif de cet article 13, ce serait de leur imposer de faire un contrôle a priori, de vérifier en amont la licéité ou non des contenus mis en ligne. Le 3 juillet, on avait abordé plus spécifiquement la question des filtres, des systèmes de filtrage automatisés, et de montrer finalement à quel point ils sont intrinsèquement dysfonctionnels et pourquoi finalement, pourquoi est-ce qu'on parle si fortement d'un risque de censure. Et donc ça, voilà, on avait pu en parler notamment avec Pierre Bessat qui avait rédigé un article très intéressant sur le sujet. Et donc, moi, je vous invite, voilà, si vous voulez replonger dans ces enjeux-là, on a les émissions étaient retranscrites et puis il y a tous les liens, comme à chaque fois, sur april.org.
Alors, il y a à la fois les podcasts qui sont sur le site de causecommune.fm, dans les archives évidemment de l'émission Libre à vous, et sur le site de l'April, il y a aussi les transcriptions qui sont faites par la géniale Marie-Odile. Donc, n'hésitez pas à relire pour effectivement vous remettre un petit peu dans le contexte de ce projet de directive droit d'auteur et notamment de l'article 13. Et donc ce fameux vote 5 juillet.
Voilà, donc là, le 3 juillet, on était donc à 2 jours de ce très important vote. Alors, pour comprendre ce vote du 5 juillet et comment on en est arrivé là, alors on avait déjà abordé, mais je pense que c'est bien peut-être de remettre très rapidement ces éléments, c'est-à-dire un peu d'avoir à l'esprit le parcours normal, on va dire, de l'élaboration d'une directive. Donc, en septembre 2016, la Commission européenne propose un texte qui, dès le départ, était particulièrement inquiétant. Il y avait déjà cette germe, enfin, il y avait déjà finalement cette idée du filtrage automatisé. Une fois que la Commission, ça c'est de manière générale, propose une directive, le Conseil de l'Union européenne, qui serait un peu l'équivalent du Conseil des ministres, hein, les représentants de chaque État membre qui se réunissent sur sur une thématique donnée, donc là, mon droit d'auteur. Et de l'autre côté, le Parlement européen, ces deux institutions, chacune de leur côté, vont élaborer leur version, quelque part, leur rapport sur la proposition de la directive. Et une fois que ces deux institutions ont leur propre rapport, leur propre version du texte, la Commission, le Conseil et le Parlement, ou du moins les représentants de ces institutions, se retrouvent pour négocier, on va dire, un compromis final, un texte final, qui, à la fin de ce parcours, sera soumis au vote du Parlement. Alors, au niveau spécifique du Parlement, en fait, c'est une commission parlementaire, c'est semblable, on a un système qui est relativement semblable en France. Une commission parlementaire, Dans le cas de droit d'auteur, c'est systématiquement la commission des affaires juridiques, la commission jury.
Ça peut être aussi la commission culture.
Alors, je crois qu'elle a été saisie de droit, oui.
Ouais, elle a été saisie pour avis. Effectivement, la commission au fond, c'est la commission juridique, qui n'a jamais été très favorable aux gens qui prônent le partage, ouais. ou même simplement aux intérêts du public, on peut dire.
Oui, elle est connue par sa rigidité, on va dire.
Voilà.
Et ça s'est avéré malheureusement être le cas encore une fois cette fois-ci. Alors, en juin, cette commission jury donc a développé son rapport, et en juin, elle a donné mandat sur le rapport qu'elle a produit, donc un rapport tout à fait rétrograde, comme on pouvait s'y attendre, en gros qui reprend sans modifier vraiment la position de la Commission européenne, donc filtrage automatisé et ainsi de suite. Et donc en juin, sur la base de ce texte, elle a donné ce qu'on appelle mandat au rapporteur, donc Axel Voss, pour aller défendre et porter ce texte dans ce que j'évoquais, donc la négociation interinstitutionnelle, le fameux trilogue avec la Commission et le Conseil, bref. Et là, c'est une chose assez rare, mais il y a une procédure qui existe et qui permet à 10% des parlementaires de mettre au vote ce mandat pour chercher à rejeter le mandat donné au rapporteur. Et ça, c'était donc l'enjeu de ce vote du 5 juillet. C'était pour les parlementaires réunis dans ce qu'on appelle en plénière, c'est-à-dire l'ensemble des parlementaires ont pu voter pour dire non, on ne vous donne pas mandat pour aller défendre ce texte. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est là, alors c'est très intéressant déjà parce que nous, ça nous met aussi dans une dynamique. Ça permet, et c'est tout l'enjeu, là tu parlais du vote, effectivement la date cruciale du 12 septembre, là, les parlementaires, ça aura donné, ça a ouvert le débat et ça va permettre aux parlementaires vraiment de voter sur le fond du texte, de pouvoir l'amender et de pouvoir, et c'est ça que nous on défend, de voter potentiellement un rejet de l'article 13, alors, idéalement de l'ensemble de la directive car elle contient très très peu d'avancées et surtout des menaces, et particulièrement donc nous, ce qu'on défend, c'est le rejet de l'article 13, et c'est donc l'enjeu du 12 juin.
Alors, Donc en fait, le signal envoyé par le Parlement européen le 5 juillet, c'est qu'on veut rediscuter du fond du texte et on ne donne pas mandat donc à Axel Voss, donc le rapporteur de la Commission des affaires juridiques, pour aller négocier directement avec la Commission européenne et le Conseil. Donc le Conseil, c'est les gouvernements. Le texte final, il faut bien comprendre effectivement de côté Conseil, ils ont une propre position et effectivement le but après, c'est de converger. Donc là, le Parlement européen a envoyé ce signal. Nous, on veut revenir sur le fond pour voir soit si on peut corriger les effets négatifs de ce texte, et donc c'est les enjeux du retour en plénière là, soit carrément rejeter ce texte, qui est toujours possible. L'histoire d'ailleurs de nos mobilisations le montre, qui a ACTA il y a quelques années a été rejetée, et plus anciennement encore, la volonté de mettre des brevets logiciels, en tout cas de valider les pratiques de l'Office européen des brevets via une directive brevets logiciels, avait été aussi rejetée. Donc là, on revient au fond dans la plénière qui va s'ouvrir dans quelques jours.
Tout à fait. Alors il faut quand même dire, nous, c'est pour ça aussi qu'on défend spécifiquement, plus fortement et de manière déterminée le rejet de cet article 13, tout en voyant l'intérêt des débats de fond, c'est aussi de se dire qu'il y a eu beaucoup de tensions dans la préparation de ce texte, notamment avec des positions assez caricaturales, rappelons-nous, des opposants, des défenseurs pardon, de l'article 13, qui en gros balayaient d'un revers de la main toutes les critiques qui étaient faites contre l'article 13 comme étant finalement... l'action uniquement des GAFAM ou de personnes manipulées par donc Google et compagnie, et donc incapables d'esprit critique, etc. Donc vraiment très cynique et méprisant, on peut le dire. Donc on a aussi cette crispation qu'il y a autour, et on peut difficilement imaginer qu'on ait suffisamment de temps pour élaborer quelque chose qui soit un texte qui soit équilibré par rapport à la version qui est proposée. Alors après, on peut toujours être sur du moins pire, entre guillemets, mais je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de ça. Et ce qu'on observe, alors demain, y a une date importante, demain, donc 5 septembre, c'est la date, c'est la dernière date, la date limite, pardon, pour les parlementaires, pour qu'ils puissent déposer les amendements, dont un amendement de rejet de l'article 13, donc on ne doute pas qu'il sera présent. Et donc on va voir sur quoi on va pouvoir travailler. Et on a déjà des prémices, donc le rapporteur Axel Voss et puis le parlementaire français qui est un des plus fervents et ardents défenseurs d'un droit d'auteur, on va dire figé dans une vision de l'ancien monde, ont déposé leurs propositions et qui...
Il s'appelle comment ce parlementaire ?
Ah oui, j'oublie de le nommer, il mérite pourtant, Jean-Marie Cavada. Et on voit qu'il propose des textes qui finalement, alors ils nous disent que ça change tout, mais qui tout aussi, voire encore plus liberticide peut-être même que l'article 13... imposant clairement, finalement, même s'ils disent le contraire, un filtrage automatisé et généralisé des contenus qu'on met en ligne.
Donc demain, en fait, on aura à la fois à disposition donc le contenu de la proposition initiale qui est soumis aux parlementaires, ainsi que les différents amendements, ce qui permettra de voir effectivement les différentes actions possibles, et pour les parlementaires de voir est-ce qu'il y a des amendements de rejet de l'article 13. Alors là, on ne parle que de l'article 13, mais il y a d'autres articles qui sont aussi importants. Par exemple, les gens de Wikimedia sont très mobilisés contre l'article 11 pour ce qui concerne le droit voisin. C'est éditeur de presse, mais nous, effectivement, on est plus focalisés sur l'article 13. Donc voilà, il y a beaucoup d'amendements qui vont être disponibles et qui, normalement, devraient être disponibles sur le site du Parlement européen dès demain.
Dès demain ou jeudi, mais assez rapidement. Là. La date limite pour les dépôts est demain. Donc, a priori, voilà, les versions officielles seront disponibles dans les jours à venir. Et c'est vrai que c'est là où on pourra mieux s'organiser aussi pour agir. Et alors, à défaut de rejet, peut-être de voir vers quelle direction. Mais c'est important, je pense, d'avoir un cap aussi ambitieux et déterminé qui nous permet aussi d'avancer avec peut-être plus d'énergie. Du coup, on peut se demander comment agir. Et là, c'est important.
J'allais te le demander.
Parce que nous, on peut effectivement, et c'est aussi le propre, l'intérêt d'une association comme l'April, hein, on a du temps. Moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir un temps permanent en semaine de pouvoir agir. Mais c'est sûr que d'avoir une action et une mobilisation citoyenne importante, c'est ça finalement qui a aussi un impact. C'est un impact déterminant. Alors clairement, le mieux, et c'est toujours le cas, on avait déjà pu l'exprimer lors des précédentes émissions, c'est de prendre contact avec les parlementaires. Déjà par courriel, idéalement, et encore mieux, par téléphone. Alors, il y a un site, et on avait déjà aussi évoqué, de la campagne Save Your Internet. Alors, on vous mettra tous les liens, hein, sur april.org. Alors, il l'a fait peau neuve pour cette rentrée, enfin, pour ce vote à venir. Et ils ont un outil que je trouve très intéressant, parce qu'en fait, il permet de trier les parlementaires avec un visuel très simple pour savoir... comment ils ont voté le 5 juillet, donc a priori, quelles sont leurs positions vis-à-vis de l'article 13. En vert, ils avaient voté contre, donc pour les libertés informatiques, et en rouge, ils avaient voté pour le filtrage des contenus. Donc ça permet déjà d'avoir un aperçu de ceux qui cherchaient à convaincre, et puis après, c'est possible de les trier aussi par groupe politique, donc ça permet à chacun, peut-être voilà, selon ses affinités, de prendre contact avec quelqu'un avec qui peut-être il sera plus facile de convaincre. Alors, il propose un générateur de messages. Nous, on recommande plutôt d'écrire directement un courriel. Déjà parce que ça évite un effet spam qui peut avoir être contre-productif. Et d'ailleurs, ça a été plutôt, ça servait d'alibi pour les défenseurs, comme je vous le disais, de traiter la mobilisation, d'être au service des GAFAM. Hein. Alors, chacun appréciera la teneur, la justesse de ces attaques quand elle est faite à l'APRI, à Framasoft, à Wikimedia, à la Quadrature du Net, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, je pense que les parlementaires sont souvent assez sensibles aux prises de contact réelles, plus personnelles. Il n'y a pas besoin de développer un argumentaire forcément très abouti et très détaillé, dans le sens où ils en reçoivent énormément. Et là, on est peut-être, nous, c'est ce qu'on essaie en tant qu'April de leur proposer sur nos sujets. Mais ce qui leur intéresse et ce qui leur parle, je pense, c'est de sentir que la mobilisation est réelle. Il y a des vrais individus, il y a des vraies personnes qui se mobilisent et qui agissent et qui sont... Et le simple fait, en fait, de faire cette démarche-là les convainc aussi que les gens, pour eux, c'est quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas forcément une démarche qui est simple en soi. Et quand on prend ce temps-là, ça les convainc aussi de cela. Et c'est pour ça que l'idéal, et encore plus, c'est l'appel, parce que là, on montre vraiment qu'il y a une vraie personne, il y a un contact direct. Et dans un contexte où il y a une très forte tension de lobby, je pense que ça donne un corps humain et ça montre une réalité des inquiétudes. Et donc, un appel ou une prise de contact peut avoir un effet bien plus important, je pense, qu'on peut se le représenter. Maintenant, c'est un peu moindre, mais ça garde du sens et ça reste quelque chose de très utile, c'est tout simplement la mobilisation en ligne sur les réseaux sociaux, Mastodon, Twitter, Diaspora... plutôt Mastodon et Twitter, effectivement, parce qu'ils ont, je pense, en termes de mobilisation, ça permet une visibilité qui n'est pas la même, mais tout relais, ne serait-ce que de l'information, est toujours utile. Alors, il y a différentes manières de faire. On peut peut-être, pareil, on a fait une actu vendredi, je crois, voilà, comment agir le 12 septembre, donc, avec le lien sur le site april.org. On détaille différentes manières d'agir. On peut peut-être juste évoquer la campagne Save Your Internet lance ce qu'ils appellent une Action Week.
SaveYourInternet.org.
.eu.
Ah, d'accord. Alors, donc, je te demande, alors c'est .eu, et donc même si le titre du site est en anglais, il est traduit dans différentes langues, dont le français.
Notamment l'outil où je vous disais pour la sélectionner les parlementaires, là pour le coup est en français effectivement. Et donc ils font une semaine d'action, du 4 au 11, le 11 la veille du vote, et chaque jour en fait, avec cette idée que chaque jour avec une thématique donnée. Alors aujourd'hui, de mémoire, c'est... c'est pour dédier voilà, aux défenseurs des droits humains et des libertés informatiques. Donc, c'est vrai que ça vise assez largement, mais je pense que c'est pour centrer notamment voilà, sur la liberté d'expression et les dangers vis-à-vis de ça. Et demain, ils appellent tous les développeurs et développeuses de logiciels, finalement tous ceux qui sont attachés à défendre le logiciel libre, de faire du bruit et de montrer, voilà, de montrer que les gens sont concernés par ça, s'inquiètent de ces sujets-là, et donc de faire du bruit en ligne, donc à utilisation de mots-clés, etc. Mais comme je vous le disais, voilà, tout ça est rappelé sur notre actu récente. Je pense que vraiment cet angle par jour, ça permet de montrer, et c'est ça qui est important, et ce qu'on défend aussi depuis le début, c'est qu'en fait, il y a une ampleur dans la mobilisation, mais une diversité aussi des personnes qui se mobilisent et des résistances, ce qui montre aussi une diversité des menaces qui sont perçues contre ce texte. Peut-être juste rappeler que dans tout cela, l'autre consolation, on peut appeler ça, mais il y a une exception, les forges logicielles qui, nous, alors, s'étaient mobilisées au début pour ça, donc les plateformes de création et de partage de code source pour la création, le développement de logiciels. Étaient concernées et donc auraient dû mettre des filtrages en place. Et par notre action et celle de d'autres, notamment de la campagne Save Code Share, on a obtenu l'exclusion du champ d'application de ce texte. Mais c'est parce qu'on a aussi réussi à donner de la visibilité. Donc on peut imaginer d'autres secteurs qui peut-être pas ont peut-être pas eu la même capacité de mobilisation. Donc c'est pour ça que c'est important de se réunir, d'agir et de faire du bruit pour dire non, quoi, comme on a fait avec ACTA, comme on a fait avec le brevet logiciel, et pas se laisser faire face au vieux monde.
Bah écoute, merci Étienne, je crois que c'est très clair. Donc les deux sites de référence, bah, c'est april.org sur lequel il y a effectivement notre actu, et puis il y a une petite image sur la page d'accueil qui renvoie directement ensuite sur le site de campagne. Donc le site de campagne, donc, c'est saveyourinternet.eu, donc, dont la partie mobilisation est disponible en français.